politique sur la police, en tout cas je peux l'interpréter comme ça.
Oui, effectivement, hein, je crois qu'il faut vraiment saluer la réactivité de la compagnie d'intervention de Bordeaux, où entre l'appel qui est fait à la salle de commandement et le fait que l'individu soit neutralisé par ses effectifs, il s'est écoulé moins de 5 minutes.
On est un peu démunis tous, et on écoute beaucoup de policiers. Et lorsqu'on écoute les policiers, vous êtes en première ligne et vous témoignez d'une réalité qui est effrayante et qui est parfois déniée dans la vie médiatique, dans l'espace médiatique, mais aussi dans l'espace politique. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez ?
Alors, nous, c'est vrai que aujourd'hui, les politiques sont en contact, hein, malgré tout. Hein, mais ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, Bordeaux a changé ces dernières années, et il y a une recrudescence des attaques au couteau et une insécurité qui monte effectivement.
On avait un jeune homme qui s'appelle Alexandre qui dit depuis 3-4 ans, une population immigrée est arrivée à Bordeaux qu'on ne voyait pas et qui est à l'origine de ces troubles. Est-ce que c'est une réalité ?
C'est effectivement une réalité. Nous avons de plus en plus de MNA, de mineurs non accompagnés, qui se trouvent à Bordeaux, mais je crois comme sur l'ensemble du territoire national.
Mais d'où viennent ces mineurs non accompagnés ?
Alors là, je n'ai pas précisément de réponse à cette question. On sait que c'est une situation qui est prise en cause sur l'ensemble du territoire national.
Et qui est facteur de troubles et d'insécurité plus grande, notamment à Bordeaux ?
Effectivement, on constate qu'il y a quelques agressions sur fond de règlement de compte, d'alcool, sous l'emprise de drogue, où on a des altercations au couteau, tout à fait.
Ben merci Anne-Sophie Balm, on voulait faire un petit point très rapide, bien sûr avec vous, mais vous souhaitez bon courage dans la ville de Bordeaux, et c'est vrai que vous parlez de l'insécurité dans toutes les autres villes. Je disais à Paris tout à l'heure que c'était peut-être plus facile, si j'ose dire, où la ville était davantage protégée, et j'ai beaucoup de messages, et effectivement, qui me rappellent que l'été dernier, une jeune femme s'est fait violer au Champ de Mars, il y a 3 mois à peine, un Allemand a perdu la vie au pont Birakeim, que le 7e, le 16e arrondissement, qui sont a priori des quartiers plus protégés, bah, c'est là qu'il y a aussi beaucoup de vols et de viols, donc je pense que bien sûr, faut prendre tout ça avec peut-être plus de nuances que je le disais sur Paris et que toutes les villes, manifestement, aucune n'échappe aujourd'hui à cette insécurité. On va marquer une pause, monsieur Olivier Guénec, et je remercie madame Balm une nouvelle fois.
Alors justement, un message de Joséphine sur notre page Facebook. On ne fait que des constats, mais quand est-ce qu'on agit ? Combien de morts et d'agressions faut-il encore pour réaliser ce qui se passe et surtout prendre des décisions concrètes ?
Mais oui, mais on est tous démunis. Je ne sais même pas les décisions qu'il faudrait prendre. Ou en tout cas, elles sont tellement radicales, ces décisions, que personne ne les prend. Il est 11h26, on va être avec Claude-François Junior.
Oui, c'est magnifique.
Et pourquoi on va être avec Claude-François Junior aujourd'hui ?
Bah, parce qu'il y a une croisière, Pascal, qui l'organise. Mais Laurent va
du
mieux dire que
du 6 au 13
moi.
Octobre. Ah, exact. Voilà, croisière, Claude-François. Imaginez une semaine à écouter du clo-clo, des conférences, des karaokés.
Alors moi, je suis en croisière Claude-François depuis toujours.
Oui. Parce que c'est ce que je lui ai dit au téléphone.
Il est déjà avec nous, Claude-François.
Non, dans quelques instants.
Moi, je suis Et puis parfois il y a des chansons que tu réécoutes. Attendez, il y en a une que tu écoutes à tel moment et puis elle revient. Bon là, les yeux bleus. C'est incroyable quand même. Claude-François est mort en 1978, il y a 46 ans.
J'aurais rêvé d'assister à un de ses concerts.
J'étais même pas née. Ah non. Oui. Non mais en fait, non mais j'étais pas née, mais c'est comme si j'avais toujours connu en fait.
Mais bien
sûr. Non mais
est-ce que je vous ai dit quand est-ce que j'ai appris la mort de Claude-François ?
Ça ne dit rien.
La pause.
Europe 1, Pascal Pro.
Ça s'en va et ça revient.
Dans cette actualité très lourde, on a besoin, c'est vrai, d'un peu de légèreté. On va être en ligne dans une seconde avec Claude-François Junior. Figurez-vous qu'une croisière Claude-François est prévue du 6 au 13 octobre. C'est la toute première, une semaine à bord d'un paquebot pour partager la passion de Claude-François. au programme Soirée Disco, Clo-Clo Night Forever, des conférences, karaoké en compagnie d'André Torrent, un concert live Clo-Clo Experience. Est-ce qu'on pourrait appeler, s'il vous plaît, Donna Vidal-Revel pour que je lui dise qu'entre le 6 et le 13 octobre, je ne serai pas là.
Parce que moi,
je vais monter sur ce paquebot. Il est avec nous, Claude-François Junior ?
Oui.
Oui, je suis avec vous. Je rigole bien de vous entendre.
Bonjour Claude-François. Je disais que moi j'ai l'impression d'être déjà en croisière permanente. Mais c'est vrai que le succès de Claude-François, à chaque fois que vous venez, et j'ai envie de dire, c'est tout le monde vous dit la même chose. Parce que c'est tellement incroyable. 35 millions d'albums vendus depuis sa disparition en 1978, soit autant que durant sa carrière. Il y a eu deux longs métrages, il y a des albums de reprise, il y a des titres comme Alexandrie et Alexandra qui sont chantés par tous les jeunes. Il y a 10 000 visiteurs qui ont passé la porte du Moulin, qui était la maison de campagne, etc. C'est incroyable combien votre père est présent, parce qu'on en est maintenant à la troisième génération, peut-être après sa mort, de gens qui ont 15 ans, 20 ans. Et moi, quand je vais en boîte de nuit chercher mes enfants à la grange, je peux le dire à la boule, je rentre là-dedans et j'entends Alexandrie, Alexandra,
oui,
Claude-François Junior. Et je me mets à danser. Non mais c'est incroyable. Je sais pas si un succès de ce type à l'étranger, en Allemagne, en Espagne, en Italie, alors, un chanteur décédé, je sais pas si un chanteur est aussi présent.
Jusqu'à Michael Jackson, le seul comparable c'était Elvis Presley, mais il n'est pas dansant Elvis Presley, donc on le retrouve pas en boîte, on le retrouve pas dans les fêtes de famille, et du coup il y a moins de transmission comme il peut y avoir avec le répertoire de mon père. Et c'est ça sa force. C'est vrai que c'est un phénomène de longévité qui est assez unique au monde, en tout cas unique en francophonie.
Et ça ne s'arrête pas ?
Non, mais parce que ça se transmet, comme vous dites, de génération en génération, grâce aux parents. Et puis, je pense qu'il y a une magie dans le répertoire. Il y a une vérité absolue dans la qualité des productions, dans l'interprétation. Et moi, je crois à ça, à l'idée que quand on fixe une énergie dans un enregistrement, eh ben, elle est capable de produire des moments présents à l'infini tant qu'il y a des gens pour les écouter et ressentir l'intention, l'énergie de l'interprète et des musiciens.
Est-ce que vous, est-ce qu'il y a encore des documents qu'on ne connaît pas, un document visuel ou un document sonore sur lequel vous seriez tombé récemment et que vous ne connaissiez pas ?
Oui, ça fait quelques années qu'on travaille sur un documentaire où on veut mettre en avant l'homme de scène. Et on a retrouvé, l'équipe avec qui je travaille a retrouvé en temps des recherches dans certains laboratoires spécialisés des films sur lesquels on le voit sur scène. Alors, il n'y a pas beaucoup d'images, mais il y a encore quelques images inédites, mais elles ont surtout l'avantage de montrer un artiste transpirant, habité, qui n'a rien à voir avec celui qu'on peut voir sur les plateaux télé, où ses costumes, mèches impeccables, c'est plus aseptisé. Alors, ça reste beau et efficace, mais il manque la dimension trans animal qu'on peut retrouver sur scène et qui faisait partie de sa personnalité.
Et il y a une image assez célèbre, je crois, lorsque il était tombé ou dans le public ou même il avait eu où il lance sa chemise. Ça, c'est une image qu'on a vue de nombreuses fois parce que c'est peut-être toujours le même concert d'ailleurs.
Non, parce qu'il lançait la chemise à chaque concert. En revanche, il est effectivement tombé une fois dans le public, dans la fosse de Forêt Nationale à Bruxelles. Et je ne sais plus lequel des To Be Free, il y a quelques années, j'étais allé voir un concert et à la sortie, j'avais vu, il m'a dit: t'as vu ce soir, j'ai fait clo-clo parce qu'il s'était jeté dans le public.
Alors, cette actualité, et vous êtes venu pour nous parler de cette croisière du 6 au 13 octobre, c'est une croisière où on pourra découvrir Ibiza, Rome, en profitant des derniers rayons de soleil de l'été, puisque c'est entre le 6 et le 13 octobre, donc c'est même au début de l'automne. Ça sera... combien de personnes vont embarquer sur ce paquebot ?
Alors, comme on a des espaces qui sont réservés pour nos soirées, nos animations, on est assez limité. Du coup, on sera autour de 500 personnes.
Mais ça sera entièrement une croisière clo-clo ou il y aura d'autres D'autres touristes. Mais alors, le touriste qui n'aime pas du tout Clo-Clo. Celui qui est complètement allergique, vous voyez, qui vraiment, parce que ça doit exister, qui était un fan, je ne sais pas, d'un autre chanteur. Et alors là, celui.
Bah, il n'a pas le choix.
Peut-être qu'on le fait bien avant.
Il a le choix parce que les animations sont uniquement accessibles à nos croisiéristes. On a des espaces réservés sur le bateau. Et on a des espaces de restauration. En réalité, tous nos croisiéristes, la petite communauté qu'on va créer, va se retrouver ensemble pendant une semaine. Après, toute la journée, ils font ce qu'ils veulent sur les escales, évidemment.
Bien évidemment. Alors, c'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des... Parce que j'imagine que vous devez connaître, vous, des fans absolus depuis tant d'années qui vous suivent et qui seront, j'imagine, présents.
Ben oui, que je vois depuis que je suis enfant, d'ailleurs. Que j'ai vu grandir, vieillir. Donc, certains d'entre eux seront là, évidemment. Mais ça se destine, pour le coup, vraiment à un public plus large, parce qu'on veut pas avoir que... Enfin, c'est parce qu'il y a des ultras, mais en fait, plein de fans invisibles, comme dans toutes les... tous les fans d'artistes, il y a... Quand on est dans une grande salle, il y a ceux qui crient devant... Ils sont les ultras, ce sera sympa, mais les ultras quand même. Et puis derrière, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, le grand public. Et donc c'est eux qu'on vise parce qu'on est en réalité à la fois sur mon père, mais sur son répertoire et sur l'époque. On va jouer sur tous ces codes.
Ah oui, il faudrait être habillé en... Ça serait pas mal qu'on soit... Est-ce que les gens seront obligés ou en tout cas, il y aura une tenue habillée comme en 75 pas...
Non, non. Des pâtes d'Ève, non?
Ah oui, c'est ça,
des pâtes d'Ève, oui. Brillant aussi.
On n'impose rien, mais sur la soirée disco notamment, on suggère, on recommande aux gens de venir avec une petite touche de paillettes.
Oui, c'est mieux.
C'est sympa. Et puis des coiffures. Bah, ouais. Et vous serez présent sur ce paquebot pendant les 8 jours?
Pendant toute la semaine, oui.
Bon, bah, donc les gens, c'est important parce que les gens, vous êtes une. J'ai envie de dire, pardonnez-moi, peut-être que ça va vous choquer, mais vous êtes un morceau de la croix pour tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils vous. Mais oui, ils vous touchent, bien sûr, et qu'ils ont un rapport avec vous, j'imagine, particulier. Vous vivez avec ça depuis toujours, c'est évident, mais forcément, ouais, les fans et ceux qui ont connu votre père, d'ailleurs, il doit en rester quelques-uns, ils doivent avoir un rapport avec vous qui doit même. Ça peut faire peur, peut-être.
Je finis par m'habituer, mais effectivement, il y a quelque chose de religieux.
Ouais. Bien sûr.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. C'est pour vous dire que votre imprimante Canon fonctionne hyper bien en Wi-Fi.
Ah, bien sûr.
Et du coup, je sais pas où est ma femme, mais elle arrête pas d'imprimer des recettes de cuisine.
On vous laisse la chercher. Mais n'oubliez pas, du 9 au 20 avril, pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat chez Leclerc, l'imprimante multifonction Canon avec moins 20 euros est à 39,99 euros.
Chérie, t'es où ?
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Garantie 2 ans, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Sur le tarif de Costa, puisque c'est une croisière Costa aujourd'hui, et on est entre 1500 et 1900 et quelques euros, et c'est tout inclus. Tout, de l'apéritif au digestif pour les boissons, les repas évidemment, et les taxes de séjour, tout est inclus.
Ouais, donc départ de Marseille, nous sommes d'accord. Ouais. Marseille, j'ai dit Ibiza, c'est sympa à faire. Hein. Ouais, on ne pourrait pas y aller nous,
mais
on ferait toutes nos émissions en direct là-bas.
Ah, on peut ? Ah bah si c'est possible, techniquement c'est peut-être possible.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Avec plaisir, oui, bien sûr.
Ah ouais, moi j'aimerais bien, on ferait nos deux émissions, je trouve que c'est une bonne idée.
C'est un petit peu compliqué pour nous, non, pour la télé, non ?
Non, sérieusement, c'est une bonne idée en tout cas de faire au moins un reportage et de voir ses fans, moi je trouve que c'est absolument formidable. Et puis les soirées à karaoké... Et toi et moi contre le monde entier, c'était une chanson pour vous ou c'était une chanson pour votre frère ?
En réalité, j'ai jamais su, mais je pense que c'est les deux. C'est juste que pour le nom, mais pour l'écriture, en écriture, c'était plus facile de faire toi et moi, plus efficace, plus pertinent que vous et moi. Mais je vois pas pourquoi ça serait pour moi plus que pour mon frère.
Et puis il y a une autre émission où vous étiez intervenu. C'était un jour de Noël. Je crois que c'était vraiment en direct ce jour-là, lorsqu'on vous voit jouer tous les deux au piano avec votre frère et on voit Michel Drucker avec un joli pull blanc.
Nous, en tout cas, on était en condition du direct. Je ne sais plus si c'était du direct ou pas, mais nous, on savait qu'il ne fallait pas qu'on se rate.
Oui, parce que j'ai l'impression qu'effectivement...
Devant le padré,
oui. Oui, parce que bon, alors là, c'est vrai que tout le monde connaît ces scènes et ces images, parce qu'on les a vues tellement de fois, et puis vous étiez tous les deux très beaux, très blonds, et dans une vie si particulière. qui effectivement aujourd'hui perdure encore. Bon, est-ce qu'on peut écouter quelques notes, monsieur DJ Fab?
C'est toi et moi contre le monde entier, pas seul à tes côtés, comprenant
la tristesse. Et moi j'avais 10 ans, le téléphone pleure. Comme j'avais 10 ans, en fait.
Vous aviez 10 ans?
J'avais 10 ans, moi je suis de 64. Le téléphone pleure, je crois que c'est le plus gros succès, le téléphone pleure, Claude?
C'est le plus gros succès de son vivant. Ce qui est étonnant, c'est que le succès qui va dépasser le téléphone pleure, c'est Alexandrie Alexandra,
oui.
Mais qui sort en réalité le jour de ses obsèques, le 15 mars 78.
Ouais, ça c'est absolument incroyable. C'est 75 ou 74 le téléphone pleure?
74, vous avez raison.
Mais toute la France, vous entendez bien, connaissait cette petite fille. Et ouais. 40, 50 ans plus tard, puisque ce titre a 50 ans d'ailleurs, ouais. Finalement.
Frédéric, oui, bah oui.
C'est fou, ce titre à 50 ans. Il faut faire quelque chose pour le téléphone pleure. Il est sorti fin d'année ?
Ouais, mais vous me donnez une bonne idée. On va faire.
Ah oui, il faut faire quelque chose pour les 50 ans. Si en plus c'est le titre. Mais je ne touche rien. Hein. Parfois je donne des idées, mais je ne touche rien du tout.
On mettra
un
petit copyright, Pascal.
Mais je pense qu'il faut ressortir le 45 tours. Mais ça existe encore, le 45 tours?
Oui,
bien sûr.
Et c'est un titre découvert par Gérard Louvain à l'époque. C'était une phase B d'un 45 tours.
Ah oui?
Américain.
Et puis cette jeune fille. Et puis qui raconte.
Frédéric.
Et c'était. Parce qu'en fait, il y a aussi une dimension un peu sociétal, c'est-à-dire que c'est le début du divorce dans les années 74. Il y avait la chanson, exactement, il y avait eu la chanson de Delpech, Les Divorcés, et par exemple dans ma classe en 74, t'as pas de divorcé, on est 30 petits garçons, ça existe pas.
Oui, ils sont très peu.
30 petits garçons, 30 garçons, et ça existait très peu. Et quand on voyait l'un de nous divorcer, on se disait, pourvu que ça n'arrive pas chez moi.
C'est vrai.
C'était ça la réalité. Bon, aujourd'hui, dans les classes, tous les enfants sont divorcés. Donc, le rapport est divorcé. Donc, tu ne souffres pas que tes parents soient divorcés, puisque tout le monde l'est. À l'époque, c'était un peu différent. Donc, il y a cette dimension également dans cette chanson qui est un peu mélancolique et qui est très belle, disons-le. Bon, c'est toujours un plaisir, Claude François.
Plaisir partagé, Pascal. Merci d'avoir salué mon père le 1er février, ça m'a touché.
C'est vrai que il y a une affection particulière pour les gens de ma génération, forcément.
Et pas que,
elle est particulière parce que je les fais souvent sourire parce que je raconte la même anecdote.
Du bus.
C'est pas drôle vous parce qu'on parle quand même de votre père qui est décédé. Et c'est vrai que j'entre dans un bus, on est en 78, j'habitais à l'extérieur de Nantes, je monte dans le bus pour aller dans le centre-ville de Nantes, c'est un samedi, et quelqu'un monte dans le bus et dit que Claude François est mort. Bon. Et on était, alors nous on raconte ça, bien sûr, avec plus de légèreté aujourd'hui.
Mais une personne sur trois, quand elle me rencontre, me parle des conditions dans lesquelles elle a appris la mort de mon père, encore aujourd'hui. C'est fou, ça a marqué les gens, et comme les souvenirs sont intacts.
Mais c'est incroyable! Je me souviens très bien de ce soir-là, c'est incroyable. La France s'est arrêtée, les obsèques ont eu lieu le mercredi. Pendant les 3-4 jours, c'était... vraiment ça.
Yann Moix avait une formule choc. Il disait le 11 mars 78, c'est toute la France qui s'électrochoque.
Ben oui.
Et c'est un peu ça.
Merci en tout cas, Claude François, c'est toujours un plaisir.
Merci
vraiment, vraiment, c'est un plaisir.
Et puis, elle est pour vous, Pascal, cette croisière.
Mais
on le fait vraiment.
Bien sûr, on prend des vacances.
Ah, mais
6, 13 octobre, on ira.
Ah oui, mais on part, qui part alors dans l'équipe là?
Qui part, tous.
À tous?
Si on nous donne la
main. L'autorisation.
Ah oui, d'accord.
L'autorisation.
Ouais. Bon. Il faudrait être
j'ai un peu mal de nerfs. Parle à l'organisation.
Exactement.
Vous mettiez des pattes d'eff? À l'époque,
je mettais des pattes d'aise.
Tu vois bien pattes d'aise.
Non, mais moi, j'avais même pas le droit de porter des jeans, donc c'était encore autre chose.
Ah bon,
mais parce que ma mère voulait pas. Qu'est-ce que les jeux disent? J'allais à l'école avec des pantalons, on se fichait de moi. La mairie de Toulouge, pas Toulouse, Toulouge. C'est 6500 habitants près de Perpignan se bat contre l'implantation d'un McDonald's. La ville a adopté une motion de censure contre cette installation aux abords du stade municipal. Les élus justifient leur décision par l'impact néfaste sur l'environnement avec l'augmentation de la production de déchets au bord des routes. Les nuisances olfactives sonore et la politique communale engagée pour la protection des commerces de proximité, le bien manger. Alors, qu'en pensez-vous, un fast-food dans votre commune? Près de chez vous, donnez-vous votre avis. Avec qui sommes-nous?
Avec Jean-Pierre.
Jean-Pierre. Jean-Pierre qui est restaurateur à Saint-Raphaël.
Oui.
Mais ça fait longtemps que vous n'aviez pas appelé Jean-Pierre. Merci d'être avec nous.
Monsieur Pro. Comment allez-vous?
Mais vous êtes toujours... ça marche?
Ça marche bien? Ça marche.
Bon.
Oui, toujours. Je vous remercie.
Ben non, je vous en prie. Il y a combien de couverts chez vous?
Là, ce midi, j'en ai une vingtaine.
Ah oui, mais parce que c'est déjà... C'est les vacances?
Non, pas encore.
Non, mais vous avez les Parisiens, ils sont en vacances, donc vous pouvez avoir une petite clientèle parisienne à Saint-Raphaël.
Exactement. Et, oui, il y a des gens qui viennent qui viennent en villégiature et qui ont des maisons secondaires ici.
Et qu'est-ce que vous proposez ce midi? C'est à la carte ou il y a un plat du jour?
Ah non, il n'y a pas de plat du jour. Moi, c'est tout à la carte.
Donc, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, si de raffiné ou de très bon pour le déjeuner?
Je voulais savoir quoi, tout le menu?
Non, mais quelque chose que vous avez préparé avec amour?
Alors, non, il n'y a pas d'amour, moi, il n'y a que de la passion.
Voilà. Que me dit Olivier?
Non, je disais, quel est son plat phare, sa spécialité?
Le plat phare, je ne comprenais rien. Il me disait dans l'oreillette, le plat phare.
Non, pas le phare breton, pas le phare breton, attendez.
Est-ce qu'il y a de la viande?
Oui. Il y a une épaule d'agneau confite.
Ah,
d'accord. Voilà, une épaule d'agneau confite avec un risotto de petits pois.
Et ça, c'est proposé à quel prix?
Le menu, entrée plat dessert, il est à 35 euros.
Ah bah c'est raisonnable quand même. C'est raisonnable. Entrée plat dessert, ouais. c'est raisonnable.
Et bien sûr, tout fait maison.
Oui, parce qu'à Paris, entrée plat dessert, c'est parfois, c'est quoi même, oui, ça peut être plus cher que ça. Bon, le McDo, évidemment, vous, comme vous êtes restaurateur, vous êtes contre.
Je suis pas contre. Voilà, je suis pas. Alors, quand je vous dis ça, Monsieur Pro, je suis contre la malbouffe. Mais après, est-ce que il faut s'insurger contre ça? Moi, je pense que non, parce qu'il y a une clientèle pour ça. Ça vous fait une manne de clientèle pour les commerces à côté. Pourquoi? Quand vous allez au McDonald's en famille, peu importe. Voilà, le week-end ou le mercredi, enfin j'en sais rien. Qu'est-ce que font les personnes après? Eh ben, ils vont dans les commerces à côté faire leurs courses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ils vont chez les grandes enseignes ou d'autres moins grandes enseignes ou les commerces de proximité. Voilà.
Bon, bah, c'est pas vraiment un concurrent pour vous. Je crois que vous avez un McDonald's tout près de chez vous. Quoi, tout près de votre restaurant?
Il est sur le port. Moi, je suis à côté de la mairie, d'accord, dans la vieille ville, et il est sur le port de Saint-Raphaël, donc il a 700 mètres.
Oui, voilà, mais c'est pas la même clientèle du tout. Vous y êtes allé parfois?
Jamais.
Jamais. Jamais vous n'êtes allé dans un fast-food de votre vie?
Si, bien sûr.
Mais pas McDonald's?
Non. Non. Bien sûr, j'ai fait des fast-food même aux États-Unis parce que vous avez envie d'aller voir un peu ce qui se passe dans les steakhouse, dans les choses comme ça. J'ai fait McDonald's aux États-Unis pour voir comment ça se faisait. Mais bien sûr, je serais un menteur de vous dire que je n'y suis jamais allé.
On est tous allés de temps en temps, ça peut aller. Et quand on a des enfants. Quand est, comment
bien sûr, de pas, temps en temps, dans pas, votre cas, c'est pas de temps en temps. Hein.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Non, rien. Bon, voilà.
J'y allais quand j'étais dans une autre maison, parce qu'il y avait un McDo qui était tout près.
Tous les jours.
J'allais pas tous les jours.
Vous y alliez tous les jours. Dites la vérité.
Non, ça, c'est pas vrai. Ne l'écoutez pas, monsieur Jean-Pierre, il dit des bêtises.
Non, mais c'est parce que vous, monsieur Pro, vous en avez marre du steak haché pomme noisette.
Je suis assez rustique sur mes goûts alimentaires, mais c'est vrai que, par exemple, le hamburger frites Sunday,
oui, c'est bon.
C'est un triplé qu'il m'est arrivé de faire.
Ça,
voilà.
On va pas faire de la pub pour McDo. Il faut parler aussi des autres dans ces cas-là.
Burger King.
Voilà. Non, mais de toute manière, Monsieur Pro, vous n'allez pas interdire personnes d'aller au McDo. Sinon, faut interdire la publicité dans les médias.
Je suis d'accord. Alors, le maire de Toulouse, il va être avec nous dans quelques instants, peut-être après.
Voilà. Et après, bon. après, après, après,
c'est vous
après,
qui...
après, Après, peut-être que monsieur le maire, il devrait peut-être penser que les personnes qui vont aller chez McDonald's, ça va les priver, ça va priver, enfin, qu'ils vont pas aller chez McDonald's dans sa ville, ça va priver ses commerçants et les autres grandes enseignes qui sont implantées autour ou dans sa ville de ne plus venir. Pourquoi? Parce que les personnes, ils vont aller ailleurs. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est de la malbouffe. C'est sûr qu'il faut pas y aller.
Mais oui, bien, mais de temps en temps, ça peut.
Pas mal.
Bon. C'est vous qui faites la cuisine, Jean-Pierre?
Comment ça? Dans mon restaurant?
Oui, bah pas au McDo.
Ah bah oui.
Ah, c'est vous qui êtes en cuisine?
Oui, je suis le patron et je suis le chef de cuisine.
Et vous êtes combien en cuisine?
Je suis tout seul pour l'instant, parce que vous êtes pas sans savoir que pour trouver du personnel, c'est un peu compliqué.
Bon, bah donc là, et alors ça ouvre à quelle heure le restaurant?
Là, les premiers clients arrivent à 12h15.
Bon, bah, ils seront pas en retard. Voilà. 11h57 non. Et une épaule confite qui roule pour le 8. Merci Jean-Pierre.
Mais je vous en prie, monsieur Pro, à très
et
bientôt.
Et si je viens à Saint-Raphaël, ouais. Je viens vous voir.
Eh ben, je l'espère bien qu'on se rencontre.
Voilà. Exactement. Avec comme plaisir, ça, avec on prend plaisir. Plein de rendez-vous. Voilà. La croisière du 6 au 13 octobre, Saint-Raphaël.
et venez avec Olivier.
C'est gentil, merci
Monsieur
Jean-Pierre.
Boubou qui est pur, oui.
Mais moi je paye pas, Jean-Pierre.
Géraldine, vous voulez pas la voir?
Non, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, Géraldine nous en fiche, c'est agréable. Et Laurent aussi, et Fabrice, ils peuvent rester là.
Bon, vous venez avec qui vous voulez.
Et ben on vient à 30.
Et ben on va venir passer la grande surprise de Géraldine, on va la célébrer chez vous.
Europe 1, 11h, 13h. Pascal Pro, et vous?
Le maire de Toulouse, ses 6500 habitants, c'est près de Perpignan, se bat contre l'implantation d'un McDonald's. Et on est avec monsieur le maire. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour monsieur Pro.
Et merci d'être avec nous.
Merci pour votre invitation.
C'est presque un sacerdoce d'être maire aujourd'hui. 6500 habitants, les 6500, vous les connaissez j'imagine?
Un peu plus maintenant, hein, 7500, mais c'est surtout un plaisir de servir sa ville et son pays.
Vous les connaissez tous?
Écoutez, je les connais tous, puisque je suis souvent au contact d'eux, hein, mais je les connais tous aussi, puisque avant d'être maire, et en même temps d'être maire, je suis kiné. Donc, j'ai un rôle de maire, et j'ai aussi un rôle de soignant. Donc, je les reçois dans mon cabinet, je les ai longtemps reçus, et je continue à le faire.
Bon, pourquoi vous êtes contre...
J'ai un lien privilégié avec la population.
Pourquoi vous êtes contre l'implantation d'un McDo? Vous n'êtes jamais allé vous-même au McDo?
J'y étais, mais vous savez, là on parle d'un intérêt particulier. Et les élus, ils sont garants de l'intérêt collectif. Donc, je ne suis pas le seul à être contre. C'est l'entièreté du conseil municipal qui est seul. Le conseil municipal de la ville de Toulouse a voté une motion qui a fait l'unanimité pour s'opposer à l'implantation de restaurants McDonald's sur notre ville. C'est un acte démocratique fort, une motion. Ça pèse, hein, avec un seul but, c'est préserver le bien-vivre et le bien-être des Toulousiens. Alors on peut parler, on a plusieurs arguments hein, derrière cette motion, hein. on peut les mettre en avant, hein. je vais répondre à vos questions, hein. je suis là pour ça.
Mais en même temps, moi je suis étonné déjà que McDo vienne simplement pour une ville de 6500 habitants, parce que c'est rentable, ça serait rentable pour le McDo?
Écoutez, la ville de Toulouse est une ville dynamique, économiquement, elle est en périphérie de la ville de Perpignan, et alors je vais dresser les arguments, ça sera plus simple. Le premier argument du conseil municipal, vous le disiez, votre invité en a parlé avant, c'est la défense du commerce de proximité. J'ai un plan de requalification, le conseil municipal a un plan de requalification du centre-ville avec l'installation d'une halle commerçante. On l'appellera un concept de hallerie, c'est un lieu, et ça sera un lieu, il va sortir dans un mois, il va être présenté dans un mois à la population, qui est basé sur les circuits courts et le bien manger. Donc il y a quand même une identité à Toulouse qui est la défense du petit commerçant et de l'artisan. Et après, ce qui interpelle le conseil municipal, ben, c'est le lieu. Est-ce que cela engendre l'augmentation des nuisances sonores, visuelles, les flux de circulation? McDonald's, un commerce, mais un consommateur sur deux vient consommer au drive. À emporter, quelle est la plus-value pour un maire et son conseil municipal, pour la ville, qui veut dynamiser son cœur de ville, refaire vivre son cœur de ville, d'avoir un McDonald's en périphérie qui va accueillir 60%
des... Mais vous avez le moyen de vous opposer ou McDonald's fait ce qu'il veut? Moi, je ne connais pas la législation en vigueur alors, là-dessus?
Le premier moyen, c'est l'acte démocratique. Mmh.
Est-ce que vous avez la possibilité de dire non?
Moralement, symboliquement, philosophiquement, démocratiquement, on a dit non. Le second moyen, c'est le dépôt, c'est le droit. C'est le droit qui rentre en compte après. Et c'est le dépôt de permis de construire. Est-ce que le permis de construire que nous a déposé McDonald's il y a quelques jours est valable? Et là, on a une équipe compétente pour regarder un peu le dépôt, l'analyser et le contredire s'il y a besoin.
C'est le préfet, en fait, qui doit décider, sans doute. Alors, le problème du McDo, et là, on va être avec Fabienne, qui est employée de maison et qui habite Poitiers, c'est que c'est parfois le seul endroit où on peut déjeuner lorsqu'on a des revenus qui ne sont pas importants. Et je voulais simplement que Fabienne soit là et peut-être qu'elle entre en conversation avec vous. Bonjour Fabienne.
Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Pro.
Et c'est vrai que vous nous appelez régulièrement et qu'on peut échanger.
Je suis de Châtellerault.
Vous êtes de Châtellerault. C'est entendu.
C'est de ma faute.
Châtellerault, voilà.
Et j'ai dit Poitiers.
Oui, mais c'est de ma faute, c'est moi.
Oui. Ah oui, mais non, ça, c'est si vous confondez, bon, si vous confondez Poitiers et Châtellerault.
Non, mais c'est bon.
Alors
c'est
là, c'est pas possible. Parce
mais
que
c'est bon, ça va pas commencer.
C'est deux villes tout à fait différentes, Poitiers et Châtellerault.
Attendez, bon. Je défends mon territoire.
Mais bien sûr. Bon, Fabienne de Poitiers, de Châtellerault. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à monsieur Nicolas Barthes de Toulouse?
Écoutez, moi je vais prendre l'exemple de la ville de Châtellerault, hein. Voilà, oui. Qui suit. Donc voilà. Pour moi, c'est vrai que au niveau nourriture, McDo, on peut pas dire que ce soit le top. Je suis d'accord. Mais après, voilà, moi je pense que c'est plutôt au niveau revenu déjà pour commencer. Et c'est il y a à peu près que dans ces endroits-là que les jeunes peuvent se rassembler. Maintenant, il y a plus de petits bars. Si vous avez dans le moindre bar, il faut consommer. On va pas vous laisser 4 heures à une table, c'est pas possible. Donc il y a à peu près que dans ces endroits-là que je vois les jeunes, moi, ensemble. Ils ont la fille, ils ont tout. Et voilà, moi je comprends pas trop qu'on interdise ça, parce que je pense que c'est pas la même clientèle que les gens qui vont dans les restaurants, que les gens qui vont dans les circuits courts. C'est très bien les circuits courts, hein. Moi j'achète ma viande comme ça, voilà, parce que justement c'est moins cher. Mais d'un autre côté, pourquoi encore interdire une chose? Si les jeunes peuvent se rassembler là, on estime qu'ils sont peut-être mieux à se rassembler ici. Je ne sais pas où il va être implanté, s'il y a un lycée à côté et tout. Et de toute façon, la malbouffe, on ne l'empêchera pas, parce que quand on n'a pas les moyens de bien manger, eh ben, on mange de la malbouffe. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt.
Ça, c'est pas... Lorsqu'on n'a pas les moyens de bien manger, on mange de la malbouffe. Ça, ce n'est pas forcément vrai, si vous me permettez.
Non, ce n'est pas forcément vrai, mais je fais attention. Mais c'est vrai que pour un jeune, quand vous n'avez pas trop les moyens, vous allez vous rabattre sur la chose qui
Oui, je pense que c'est aussi une question d'habitude et puis peut-être de facilité.
Oui, bon,
monsieur Barthes, qu'est-ce que vous répondez à cet argument économique? Parce que si effectivement tout le monde est comme vous, il n'y a plus de McDo en France.
Je réponds à Fabienne, il y a 4 McDonald's à 5 km de Toulouse. Vous vous rendez compte? 4 McDonald's.
Oui.
Et il y a 3 autres enseignes.
Il y a des KFC, des choses comme
rapide.
Ça, j'imagine. Oui.
C'est ça.
Oui.
Et il y a 3 autres enseignes dans un périmètre qui est très court. Donc l'offre est.
Il y en a assez.
Et vous voyez.
Et le propriétaire qui vient chez vous, il a déjà d'autres McDonald's? Parce qu'être propriétaire de McDonald's, c'est
un
jackpot.
Franchisé qui a pas mal de McDonald's.
Alors ça, c'est il y a des franchisés que c'est.
Ah bon,
ils n'ont pas de problème de fin de mois. Franchisés McDonald's, ils n'ont pas de problème de fin de mois. Mmh. Ben oui, évidemment. Mais
ils ont quel pourcentage dans leur poche?
Je ne sais pas. Je pense qu'ils payent une franchise chaque ce mois, j'imagine, ou chaque année à McDonald's. Et puis après, ils font tourner la boutique. Mais je ne veux pas dire que ça marche tout seul non plus. Mais il y a beaucoup de jeunes d'abord. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans les McDo parce que c'est une manière souvent de travailler quand t'es étudiant, quand t'es jeune ou grand. Bon, c'est aussi ça. On a tous été remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent. Et puis c'est vrai que la marque est tellement puissante. J'ai envie de dire que ça marche assez facilement, Monsieur Barthes. La décision est quand, Monsieur Barthes?
La décision, maintenant, la motion est passée à l'unanimité.
Oui.
Maintenant, le service urbanisme va observer et analyser le dépôt de permis qu'a déposé le franchisé McDonald's, qui a notamment les 3 ou 4 franchises à 5-6 km de Toulouse. Et c'est vrai que Monsieur Pro, vous le dites, ils font souvent valoir l'emploi. Mais les maires des communes, ils travaillent tous les jours pour l'emploi. Mmh. Enfin, moi, je viens d'ouvrir une zone économique où on va développer 30 parcelles. J'ai contracté avec la fédération hospitalière privée pour accueillir une école en cœur de ville qui va former 60 aides de puériculture qui viendront alimenter les services médico-sociaux en tension. Le projet de la ville de Hallery de commerce va accueillir
J'ai bien compris qu'il y avait un projet de Hallery, monsieur le maire.
Et va déposer des...
J'ai bien compris l'affaire. Bon, vous êtes un... emploi, donc. J'ai regardé votre photo parce qu'on était intéressés.
Géraldine a regardé.
C'est Géraldine. Vous êtes un jeune maire, monsieur Barre.
J'ai été élu à 39 ans.
Mais
c'est vrai, gosse, monsieur le maire.
Vous avez plutôt un physique de cinéma, hein, monsieur le maire, parce que là, vous avez Géraldine a regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Je comprends que le marché, non pas le cabinet de kiné doit bien marcher.
Elle a très mal au dos.
Hein, là, ça fait. Non mais nos auditeurs peuvent aller voir.
Oui, soudainement, elle est bloquée du dos.
Oh,
là.
Arrête.
Mais non, mais il y a un côté acteur américain un peu chez monsieur Barthes.
Un peu Tom Cruise.
On
les accueillera avec plaisir.
Bien
accueillir à Toulouse. Attention, c'est pas parce qu'on s'oppose à McDonald's qu'à Toulouse on n'accueille pas. Hein.
Et vous êtes kiné, vous êtes également il y a kiné et puis
ostéo.
Oui, voilà.
C'est différent.
Vous êtes un peu ostéo.
Alors, je suis spécialiste d'une méthode qui s'appelle Soyer, que certains connaîtront. Hein.
La méthode Soyer.
Ouais, c'est une méthode qui est spécialiste des lésions dites ostéopathiques.
Ah bon?
Donc on fait que du soin structurel et de colonne vertébrale au cabinet. Et je continue à travailler le mardi et le jeudi.
Bon, parce que moi j'ai un petit souci. J'ai un petit souci, c'est horrible d'ailleurs. Alors c'est pas grave, mais vous savez, j'ai une. C'est pas utile, c'est la tendinite de la souris. C'est dans le bras. C'est dans le bras. Et alors, ça passe pas. Ça fait 3 ans, 4 ans, et ça ne passe pas. Bah, ça lance de temps en temps. Alors,
écoutez, monsieur,
tu vis avec, mais c'est pas un drame, mais c'est pas rigolo. Oh. C'est l'âge. C'est la vieillerie, disait ma grand-mère.
J'ai été kiné d'équipe de France de rugby à 13 pendant 6 ans. Donc, les sportifs, comme vous, qui ont un bon passé de sportifs.
Oui, mais c'est les meilleurs, les kinés sportifs.
On n'est pas tout à fait sur un physique de rugbyman, quand même, là.
Non mais pas, vous saviez ça, vous, qu'il y a la tendinite de la souris? Eh ben, à force d'être avec la souris ou d'écrire aussi, parce qu'on écrit pas mal, nous, finalement. Tout ce que je dis, c'est souvent écrit, comme vous le savez. Les gens pensent que j'improvise, mais tout est absolument écrit.
Vous mettez un temps fou à préparer cette émission.
Donc faut faire intervenir un ostéo. Non mais, et vous avez remarqué que tout le monde dit toujours, j'ai un très bon ostéo.
Oui,
tout le monde a son ostéo. Ah, j'ai un très bon ostéo, je peux te le prêter.
On a aussi un très bon réalisateur, on doit faire la pub.
Je vous fais signe depuis tout à l'heure.
J'ai mal au dos maintenant.
Bon, merci Nicolas Barthes.
Merci à vous.
Vraiment, merci, c'était un plaisir. Et allez voir la photo de monsieur Barthes si vous prenez rendez-vous.
Pascal Pro sur Europe 1.
21, et c'est vrai que c'est une journée un peu particulière puisque notre amie Géraldine.
Merci.
Notre amie Géraldine, c'est son anniversaire.
Merci. Oh là là, quel beau bouquet.
Et quel plus beau, cadeau d'anniversaire que d'avoir pour cet anniversaire.
C'est un honneur à Patrick Chenet, bien
monsieur
sûr.
Monsieur Chenet, quand même.
Merci, monsieur Chenet.
Franchement, vous ne les faites pas.
Hein. Mais merci, c'est gentil. Merci. Mais je suis gâtée, dis donc. Mais je ne m'attendais pas à ça.
Mais bien évidemment.
Lui apporter un petit cadeau, je pense qu'il faut l'ouvrir. Après, c'est vous qui décidez. Hein,
est-ce que je l'ouvre maintenant
Et je vois que notre ami Donavid Revel, qui est le directeur, exactement. Pardonnez-moi, vous voyez, ça me fait éternuer. Qu'est-ce que vous avez ouvert? Vous avez souligné que vous lui avez quoi? Un tire-bouchon, c'est ça?
Non. Tournepin.fr pour moi, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que c'est?
C'est quoi? C'est un cubi de rose.
Mais il souligne chaque jour que Géraldine aime prendre un petit verre de temps en temps.
Ce n'est pas vrai, je crois que c'est le qui parle moins ici.
Est-ce que vous êtes contente, Géraldine?
Oui, merci beaucoup, ça me touche.
Un cubi de rosé.
De Provence, je ne sais pas.
Et un très mauvais rosé en plus.
Ah oui, ils sont pas fous.
Je vais
la ramener en Bretagne chez mes parents. Il y a une tradition parfois chez les comédiens de mettre un petit peu chez certains, d'être porté un peu vers la boisson. Il y a une grande tradition de Pierre Brasseur. Ouais. Bon, je ne sais pas si... Pierre Brasseur, écoutez, comme son nom l'indique, dit Donna Vidal-Revel. Mais je ne sais pas si cette tradition perdure toujours.
C'est la tradition de la tendance à la boisson, sans parler d'alcoolisme, forcément, à la vie dure. Hein. Alors moi, pour être tout à fait honnête, j'ai connu beaucoup de gens qui buvaient, qui avaient une tendance à boire, pour des raisons festives ou même pour des raisons de trac, avant d'entrer en scène, on boit un petit coup, plutôt dans le théâtre public. Dans le théâtre privé, à part un ou deux éléments que j'ai connus, qui étaient très proches, qui de toute façon buvaient le matin, et voilà, mais c'était quand même des cas d'espèce. Assez rare, assez exceptionnel.
Et il y a un cas incroyable, c'est le cas de Jacques Viret, parce que lorsqu'il jouait la contrebasse, parfois on n'a pas ouvert le rideau.
Oui, bah Philippe Corsan aussi, avec qui je jouais, j'ai demandé le rideau, moi. Ouais. Parce que Philippe, que j'aimais beaucoup, qui était un acteur formidable. Hein, était incapable de dire un mot, ni même une phrase. Il m'a demandé de lui souffler en scène ce que je faisais, je lui soufflais, mais au bout d'un moment, c'était impossible. Et il parcourait la scène en disant « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi !» Alors, j'aidais comme je pouvais, et puis au bout d'un moment, j'ai demandé le rideau. Il n'était pas content. Alors, je demandais le médecin de service pour essayer de donner un café. Bon,
mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que, d'abord, toute la génération boit moins que la précédente.
Moi, je suis
frappé de ça dans nos métiers. Par exemple, vous allez au restaurant le midi, plus personne, ou très rarement les gens prennent du vin.
Avant, c'était la tradition.
Oui, exactement. Donc, et alors, dans le métier que vous faites, où il faut avoir quand même des neurones, notamment pour apprendre, quand vous avez un peu bu, c'est plus difficile de retenir, j'imagine. Il faut avoir un cerveau en état de marche.
Oui. Déjà, sans alcool, c'est déjà compliqué, ce qui me concerne.
Voilà. Bon, vous trouvez que c'est plus compliqué, par exemple, aujourd'hui, d'apprendre, par exemple, de travailler, ça vous est plus difficile qu'il y a quelques années ?
Non, mais apprendre demande un peu plus de temps, de concentration, parce qu'évidemment, en avance en vieillissant, donc les neurones sont moins performants, donc ça demande un peu plus de boulot.
Alors, vous êtes venu aujourd'hui, d'abord, la dernière fois que vous avez... Et bavarder ensemble, j'avais souligné ça, j'ai l'impression que vous êtes en scène quasiment ininterrompue depuis 50 ans. Je crois que vous êtes un des rares acteurs qui a toujours été sur scène. Il n'y a peut-être pas une saison où vous n'avez pas été au théâtre.
Oui, je crois. Mais c'est aussi le tournage, parce que là je commence un film, donc il y a une espèce de permanence comme ça entre le tournage et le théâtre. Oui.
Et le public vient... sans doute un peu, beaucoup à la folie pour vous, parce qu'il a un lien avec vous, il vous aime.
Et même parfois passionnément.
Passionnément, mais il vient effectivement, il voit Patrick Chenet, il sait...
Oui, je ne sais pas, mais comment dire... je pense que oui, ça doit faire partie un peu du truc, oui.
Et donc cette pièce de Sébastien Blanc qui s'appelle Secret, que vous jouez avec Laurent Gamelon, c'est peut-être la première fois d'ailleurs que vous êtes ensemble tous les deux.
Non, la troisième fois.
Ah oui, effectivement, donc j'aurais pu mieux préparer ce que j'avais à dire.
La troisième fois.
Donc c'est parce que vous vous entendez...
on s'entend bien.
Et plutôt bien. Et puis
on se complète bien surtout, parce que c'est un peu le syndrome Laurel et Hardy, quoi, entre cette masse impressionnante, par exemple Gamelon et moi qui suis plus... dans la finesse, peut-être, on va dire, sans que ce soit... ça s'équilibre très bien.
C'est une affaire, si j'ai bien compris, de jumeaux. C'est pas parce qu'on frappe à votre porte que vous devez l'ouvrir. Au contraire, il faut réfléchir avant d'ouvrir sa porte. Fabien ouvre toujours sa porte à ses amis, Éric et Jérôme. Sont deux frères jumeaux qui se cachent beaucoup trop de choses.
Oui, c'est ça, oui. Ce qui m'a intéressé pour faire ce spectacle, c'était évidemment les jumeaux. Passer d'un jumeau manipulateur, trafiquant, arnaqueur, malin, quoi, à un jumeau qui est exactement le contraire du point de vue du caractère et de la morale, c'est-à-dire un peu innocent, un peu gentil, un peu gogol, un peu concon. Voilà, de passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un.
C'était deux rôles de composition.
C'est un rôle de composition, oui. Pour l'acteur de composition que je suis.
Et vous reprenez évidemment beaucoup de plaisir parce que on a le sentiment aujourd'hui que les pièces, c'est vrai, qui sont comiques, alors ça a sans doute toujours été, mais les uns et les autres ont besoin un peu de divertissement et de légèreté.
J'ai toujours entendu ça.
Hein. Oui.
J'ai toujours entendu ça. Même quand acteur débutant, je regarde, ça fait du bien de rire avec ce qui se passe en ce moment et tout. J'avais 20 ans, 22 ans. toujours une permanence de l'actualité lourde, tragique de toute façon. Donc, alors peut-être que là, on a
non, mais vous avez raison. Ça a toujours été, le cas, et on a toujours entendu ça. Et il n'empêche que les films d'aujourd'hui, les films qui sont plutôt comiques et les pièces qui sont plutôt comiques, sans doute marchent-elles mieux.
C'est sûr qu'au théâtre, c'est important. Enfin, je veux dire que les comédies marchent, quoi. De tout temps, mais là particulièrement en ce moment.
Il est 12h28, nous marquons une pause et puis vous allez pouvoir interroger, parce que ce qui est intéressant, je disais que vous avez un lien quand même particulier avec le public, et ils ne sont pas si nombreux, parce que c'est un lien plus important pour un comédien, c'est le lien. Et ce lien, il existe depuis 50 ans.
Mais je crains que oui, vous calculez bien, je vous remercie. Mais je pense que le chiffre n'est pas loin de la vérité.
Donc forcément, les gens vont pouvoir vous interroger et puis vous poser peut-être des questions qui vous surprendront, pourquoi pas.
Europe 1, Pascal.
Vous dites ça à Pascal.
Bon, il est très taquin. Véronique est avec nous, et Véronique, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour Patrick, bonjour à toute l'équipe.
Et merci d'être avec nous. Et je crois que vous êtes une fan de Patrick Chenet, que vous avez peut-être vu au cinéma ou au théâtre.
Je suis très heureuse de vous parler, parce que je vous ai suivi vers cette belle maison bleue, Pascal. Donc voilà, ça me fait très plaisir d'être à l'antenne aujourd'hui.
C'est gentil avec vous. Patrick Chenet, vous l'avez vu peut-être sur scène ?
Alors non, je n'ai pas eu cette chance-là, mais je l'ai découvert en 89 dans Promotion Canapé avec Michel Sardou, dont je suis fan également. Comme vous, Pascal.
Je suis d'accord avec vous, et depuis, moi. Vous suivez sa carrière régulièrement, de près ou de loin.
Oui, tout à fait. Donc je l'ai vu au cinéma dans Tu seras mon fils, avec Nils Arestrup, que j'aime beaucoup aussi.
Oui.
Mais encore.
Et puis dans L'Empereur de Paris, avec Vincent Cassel.
Et donc, ces interprétations au cinéma. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a parlé de cinéma, mais ces dernières années, là où le succès est le plus grand, c'est forcément au théâtre. Et on disait tout à l'heure 50 ans, et vous avez raison, c'est 60 ans, en fait, puisque la première fois que vous êtes...
Oui, enfin, pas tout à fait. J'ai bien fait le calcul pendant la coupure.
Je viens de regarder l'Alouette.
Je suis à 57 ans et demi.
Bon, l'Alouette, vous avez 17 ans quand vous faites l'Alouette.
Non, j'ai 20 ans.
Ah ben, 64. 60. Là, c'est sur Wikipédia, c'est donné 64.
Oui, mais vous croyez peut-être encore Wikipédia?
Non, je ne crois pas. Mais est-ce qu'un comédien progresse encore?
Ah, en tout cas, un comédien se change, se transforme, se métamorphose. Et je crois que quelqu'un qui a certaines qualités d'incarnation, d'interprétation, ça se transforme en meilleur. C'est-à-dire que, comme disait mon camarade de Philippe Noiret, avant 40 ans, on joue, et après on est. Et c'est vrai que plus on avance en âge, plus l'addition des expériences qu'on a vécues, dont on se sert pour interpréter, pour le rendre en scène ou devant une caméra, devient de plus en plus, je crois, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai l'impression, plus proche de la vérité, d'une vérité, d'un réalisme, quoi. Parce qu'on est nourri de tout ça et qu'on n'a pas besoin d'interpréter.
Alors justement, ça c'est intéressant, parce que vous faites partie de ces gens, à chaque fois que je vous vois sur scène, on n'a pas l'impression que vous jouez. Et j'imagine que ça doit vous faire plaisir quand les uns et les autres vous disent ça, parce que je ne dois pas être le seul à vous dire ça. On a l'impression vraiment que vous réinventez le texte, que vous le découvrez, que vous découvrez ce que vous allez dire au moment où vous le dites. Tout le monde ne joue pas comme ça, même parfois des comédiens n'ont pas cette même peut-être technique que vous, ce naturel que vous avez.
Oui, c'est tout à fait juste. Alors, il y a des comédiens qui ont quelque chose de on va dire peut-être de plus solide, de plus... on sent le jeu. Et sentir le jeu, les gens aiment bien sentir le jeu. Vous savez, quand les gens vous arrêtent dans la rue pour vous dire qu'est-ce que vous jouez bien, parce qu'eux aussi ont joué quand ils étaient petits au docteur, à l'infirmière, au pompier, puis après, ils sont partis ailleurs, mais certains, comme les acteurs, continuent à jouer. Comme disait Woody Allen, les hommes jouent presque toujours bien la comédie, à l'exception de quelques acteurs. Bon, et voilà, et quand, je ne sais pas, un acteur, mettons, je ne sais pas, De Niro joue un boucher avec un tel réalisme qu'on croit que c'est un boucher, les gens ne sont pas dupes. Ils savent que c'est un acteur qui joue remarquablement un boucher. Et ils aiment bien ça, les gens aiment bien ça, cette transformation, cette possibilité d'être dépositaire, pour employer un mot de ma condition, du caractère des hommes, quoi.
Est-ce qu'il y a des acteurs français qui vous épatent ?
Oh ben moi, j'adorais Michel Bouquet, hein, comme beaucoup de gens, mais il y en a plein, il y a Magimel, Daniel Auteuil, Depardieu, j'en oublie.
Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui que vous avez envie d'aller voir sur scène et à la fin du spectacle, vous arrivez à vous dire, lui, il m'a accueilli alors que vous connaissez le métier, alors que vous connaissez comment ça se passe et la coulisse?
Oui, au théâtre, j'aime beaucoup, vous savez, des gens comme Arditi ou Lucchini ou Berléand, etc., que je connais très bien et qui donne du plaisir à chaque fois. Vous savez, c'est des gens qui prennent du plaisir. Et quand on a du plaisir, on en donne. Ça, c'est mathématique.
Je regardais effectivement les dernières pièces que vous avez jouées. Lorsque vous avez commencé, il y avait beaucoup de pièces du répertoire. Et je crois que j'avais eu cette conversation déjà avec vous en vous disant, j'aimerais vous voir dans une grande pièce du répertoire. Le problème, c'est que vous avez tout joué.
Oh non, pas tout le répertoire.
Qu'est-ce que vous n'avez pas joué ? Quels sont les...
Je sais que j'ai 57 ans et demi de carrière, mais enfin, il m'a...
Chez Molière, vous avez tout joué ?
Non, chez Molière, oui, j'ai joué le Misanthrope, j'ai joué Tartuffe, j'ai joué Scapin, la mise en scène de Jacques Weber, je m'en souviens. C'était un très beau souvenir.
Est-ce qu'il y a des rôles aujourd'hui qui vous intéressent et que vous auriez envie de monter ?
On a déjà eu cette conversation. Moi, j'ai un projet qui serait l'École des femmes, de jouer Arnulf dans l'École des femmes. C'est un type âgé, hein, même à l'époque c'était très âgé, qui est amoureux d'une toute jeune fille. C'est extrêmement scandaleux. Ça apparaîtrait comme scandaleux en ce moment. Sauf que ce type souffre, parce que les mœurs de l'époque étaient ceux-là. Elle ne l'aime pas, bien sûr. Son amour est ailleurs. Et lui ne comprend pas, quoi. Le monde s'effondre. Donc vous savez, les personnages de Molière sont très complexes. Et Sabot est un auteur fort, qui envoie avec des vérités, avec une mécanique très... C'est un homme de théâtre, il sait comment ça marche. Il expérimente ses pièces en province avant de les donner à Paris. Et quand ça ne marche pas, il enlève, il rajoute, etc. C'est un vrai quelqu'un du bâtiment. Mais malgré ça, il y a à l'intérieur, c'est toujours pareil, les auteurs comme les acteurs vivent de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont vécu, de leur vie. Enfin, vive leur art, c'est aussi une manifestation, un prolongement de leur vie. Et la vie de Molière était compliquée, hein, sa vie sentimentale, mais aussi le reste, sa vie sociale, etc. Donc ça se sent dans ces pièces, c'est ça qui est passionnant.
Et il y a effectivement des archétypes aussi chez Molière qui traversent le temps, et selon les époques, il y a des personnages qui sont peut-être plus en phase avec l'époque que d'autres. Je pense que Les femmes savantes, par exemple, est une pièce qui parle peut-être plus aujourd'hui qu'elle ne pouvait parler il y a quelques années. Tartuffe aussi, d'ailleurs.
Précieuses ridicules aussi.
Les précieuses ridicules. Donc, vous êtes sur scène, je l'ai dit, c'est le Théâtre de la Madeleine. C'est tous les soirs.
C'est à 20h, on a changé les horaires.
Parce que le public aime venir plutôt au théâtre.
Parce que comme il n'y avait plus de théâtre, parce qu'il y avait une pièce à 19h aussi, comme elle s'est arrêtée, le directeur, on pensait qu'avancer l'heure, c'était mieux pour les gens qui sortaient du bureau et tout.
Et puis, donc c'est la pièce Secret, donc ça c'est pour le théâtre, et puis vous avez parlé de cinéma tout à l'heure, vous avez parlé d'Arditi aussi, où on vous voyez dans un film... Tous les deux en train de parler, d'échanger.
De danser le rock, oui, c'était le code a changé.
Exactement, vous étiez parfaits tous les deux. Mais dans les projets cinéma.
Ben là, je commence un tournage d'un film qui s'appelle La Tournée. C'est-à-dire, c'est une équipe de films qui vient présenter en province, en avant-première, le film qui va sortir à Paris quelques temps après. Donc c'est tous les aléas de cette équipe de tournage qui va rencontrer des gens, les tensions entre eux. Enfin, c'est une jolie comédie.
Et qui a écrit ce film et qui va le réaliser ?
Florian Essick.
Il y a de jeunes réalisateurs, il y a aussi des jeunes réalisatrices aujourd'hui, peut-être ?
Il y a un film qui sort, que j'ai tourné avec Nadia Tereskiewicz, qui s'appelle Submergée, d'une femme aliante qui a... et que j'ai tourné cet automne, qui est un très, très joli film aussi.
Et après Secret, au théâtre, qui s'arrêtera, j'imagine, à la fin de la saison, est-ce qu'il y a d'autres projets?
Non, à la fin du mois d'avril, puisque je tourne après, j'avais signé pour un moment limité.
Et cet été, par exemple, il y a des choses...
Je vais faire le Festival d'Avignon, je vais faire un spectacle à partir de mon livre « Lettre d'excuse » que vous avez lu. Voilà. Donc c'est un spectacle où je lis les lettres.
Et effectivement, il y a aussi, et quand vous disiez chaque comédien, bien sûr, est fait de la vie qu'il a eue, il y a aussi dans ce rapport avec le public aujourd'hui, puisque vous en parlez, et c'est toujours délicat d'ailleurs d'en parler, il y a la mort de votre fils, Ferdinand, dont vous parlez, et effectivement ce rapport-là avec le public, j'imagine que beaucoup de gens viennent vous voir, des gens peut-être, ou souvent, qui ont subi, connu ce drame.
Oui, oui. Enfin, alors c'est compliqué parce que je ne veux pas au maximum faire en sorte que la mort de mon fils ne soit plus un sujet de conversation, ni un sujet de commentaire ou d'échange. Je ne veux pas que ça reste entre lui et moi. Mais c'est vrai que quand j'ai présenté un film en province ou même quand je joue en province, qu'il y a des débats après ou des rencontres avec le public, de temps en temps, il m'arrive assez régulièrement que quelqu'un lève la main, disant « Est-ce que je pourrais vous parler après, monsieur Chet ?» Et je sais de quoi il va me parler. C'est quelqu'un qui est arrivé la même chose et qui a besoin de parler avec moi. Et on parle, on essaye de trouver des mots, j'essaye de trouver des mots, en tout cas j'écoute.
Il est 12h46, c'est toujours un plaisir en tout cas de vous recevoir et d'échanger avec vous sur ces sujets légers, puis graves bien sûr et dramatiques. Ça va être le débrief comme tous les jours à cette heure-là.
Europe 1, le grand débrief de Pascal Praud et vous.
Et 12h50, c'est l'heure du débrief, Laurent Tessier.
Vous avez manqué le début de l'émission. Je vais tout vous résumer, monsieur Genet. Alors, il n'en fallait pas plus pour nous donner quelques idées aujourd'hui. Une croisière Claude François est prévue du 6 au 13 octobre au départ de Marseille, la mer Méditerranée. On s'imagine déjà.
Est-ce qu'on pourrait appeler, s'il vous plaît, Donna Vidal-Revel pour que je lui dise qu'entre le 6 et le 13 octobre, je ne serai pas là.
Et on s'imagine déjà dans la boîte de nuit du paquebot, les karaokés tous ensemble à proximité d'Ibiza, Florian Karasoumaïan parti, dragué, DJ Fab au platine, oui. GG au bar, non. Monsieur Boubouk sur le dance floor et Pascal avec le micro toute la nuit. François Junior était avec nous sur Europe 1 et forcément on peut écouter les chansons de Clo-Clo tous les jours.
C'est vrai que c'est un phénomène de longévité qui est assez unique au monde, en tout cas unique en francophonie, parce que ça se transmet de génération en génération grâce aux parents et puis je pense qu'il y a une magie dans le répertoire.
Ah, les chansons se transmettent et vous savez, depuis que notre directeur d'antenne Alain... Ah oui, Alain Liberty a réduit le budget de l'émission pour une histoire de prix de pantoufles de défense des écureuils. Alors nous tentons, grâce à vous Pascal, d'aller gratuitement à cette croisière. Donnez vite une idée à Claude François Junior. Tiens, sur les 50 ans de la chanson, le téléphone pleure.
C'est fou ce titre à 50 ans. Il faut faire quelque chose pour le téléphone pleure. Il est sorti fin d'année ?
Ouais, mais vous me donnez une bonne idée.
Ah oui, il faut faire quelque chose pour les 50 ans. Si en plus c'est le titre. Mais je ne touche rien. Hein. Parfois je donne des idées, mais je ne touche rien du tout.
Oh là là là, la croisière se rapproche. Car vous savez quoi ? Le patron, Donna Vidal-Revel, est passé en régie. Musique suspense, s'il vous plaît, justement, en régie. Suspense insoutenable. Patrick Chenet, vous allez peut-être venir avec nous. Une semaine en mode croisière, Claude François. Eh bien, à 12h14, tout à l'heure en régie, je lui ai posé la question et il a dit
oui.
Voilà, yes. En avant à nous la croisière, Patrick Chenet, à nous les soirées karaoké comme pendant l'émission.
Yes.
Je nous imagine avec notre petit cocktail tous ensemble. Et pour l'animation pendant la croisière, la visite du paquebot, nous pouvons proposer Géraldine aux organisateurs. Oui, GG, comme à la maison, c'est l'heure d'un nouvel épisode de Dame GG. GG commente. Alors aujourd'hui,
qu'est-ce que j'ai dit encore ? Dans
GG commande tout.
Dans GG commande tout, votre série préférée sur Europe 1, GG nous parle de Claude François.
Claude François est mort en 1978, il y a 46 ans.
C'est ça. J'aurais rêvé d'assister à un de ses concerts.
J'étais même pas née.
GG commande tout.
C'est comme si j'avais toujours connu en fait.
Mais bien sûr.
Merci GG commande tout. À demain pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, Pascal n'est pas venu les mains vides.
Ah. Je précise que j'ai apporté un triple décimètre. Aujourd'hui, ça servira peut-être.
Pour une séquence.
Tout à l'heure, pour une séquence importante.
Un triple décimètre, mystère pendant toute l'émission, mais il est temps de vous dire la vérité.
Tout, vous saurez tout sur le zizi.
Ça, c'est un bon indice. Oui, dans l'émission, nous traitons tous les sujets, nous posons les questions les plus sensibles.
Quelle est la taille moyenne du pénis ?
Excusez-nous, Patrick Chenet, pour ces questions. Eh bien, nous allons tout vous dire. C'est l'information qui retiendra votre attention. L'équipe de Pascal Praud et vous, Patrick Chenet, toujours là pour vous.
Selon une étude impliquant plus de 55 000 hommes, la longueur en moyenne en érection est passée de 12,1 cm en 92 à 15,24 cm en 2021.
C'est du déclaratif. Donc, bon. Voilà.
Et finalement, en prenant connaissance de cette information, le plus poétique à Europe 1, c'est Dimitri Palvenko, notre présentateur de la matinale.
L'homme est en train de se grandir, c'est ça que...
Non, mais c'est...
Merci Dimitri.
11h, 13h, Pascal Praud sur Europe 1.
Merci de nous avoir